BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières informations avec nos reporters, nos invités comme tous les jours. Au sommaire de ce mercredi 9 novembre, Alexandre Bompard qui était sur BFM Business ce matin pour parler de ce nouveau plan stratégique, accélérer sa marque propre, réduire les coûts énergétiques tout en améliorant la qualité des produits, plan gagnant selon le PDG de Carrefour que nous entendrons dans un instant. Dans notre focus non feront un point sur les midterms aux États-Unis. Vote sanction habituellement pour les gouvernements en place, mais cette fois il semblerait que ce raz-de-marée républicain tant attendu n'ait pas eu lieu. Nous allons rejoindre Antoine Allard dans un instant aux États-Unis. Et puis avec notre invité Pierre Rondeau, économiste du sport, nous parlerons évidemment de cette ligue de golf saoudienne qui concurrence les circuits américains, PGA et européens. Une ligue plus dotée que ses consoeurs, menace-t-elle pour autant les circuits classiques? On lui posera la question dans une dizaine de minutes. À 12h30, on vous retrouvera Thomas Schnell aujourd'hui dans BFM avec vous. On va parler notamment d'actifs numériques.
Oui, comment est-ce qu'on peut tokeniser des actions? Comment est-ce qu'on peut vendre des crypto-monnaies ou encore se protéger dans le métaverse? On vous dira tout dans BFM Business avec vous. Et puis deux recruteurs, on sera dans l'exploitation de données et la maison connectée à partir de 12h30.
Exactement, à 12h30, à tout à l'heure Thomas Schnell. Tout de suite, c'est le journal. Et Alexandre Bompard était sur BFM Business ce matin pour parler de ce nouveau plan stratégique pour Carrefour pour les années à venir, accélérer sur la marque propre, réduire les coûts énergétiques tout en améliorant la qualité des produits. C'est le plan gagnant à tous les niveaux selon le PDG de Carrefour. On l'écoute.
Ça sera un produit sur deux vendu chez Carrefour qui viendra de la marque propre. Elle incarne bien sûr le combat du prix. On a une marque notamment Simple qui est une marque de premier prix qui est moins chère que celle des hard discounters. Et elle peut incarner aussi le combat de la qualité alimentaire. On annonçait hier qu'on allait retirer 2500 tonnes de sucre, 250 tonnes de sel, des substances controversées. Deuxième exemple, l'énergie, le sujet énergétique, on s'en empare tout de suite. On va investir 800 millions d'euros pendant le plan pour baisser la consommation énergétique de 20%, et on va faire ça dans l'intégralité des pays du monde.
Dans ce journal également, Jean Castex auditionné par l'Assemblée aujourd'hui, il était devant le Sénat hier, passage obligé avant de prendre la tête de la RATP, et justement à la veille d'une journée de très forte mobilisation syndicale, il est revenu sur le climat social de l'entreprise, sur le problème de recrutement également. Écoutez.
Il y a un sujet de qualité, de continuité du service très fort, qui a marqué, ou qui marque encore, bien sûr, le service des bus, avec, vous le savez, près d'un quart de l'offre qui n'a pas été réalisée au mois d'octobre. Et on voit aussi des difficultés dans le métro, en tout cas sur un certain nombre de lignes, les causes, les difficultés de recrutement, les problèmes d'absentéisme, de gestion des ressources humaines. Je voudrais pas non plus, je le dis, vous comprenez, dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui et dans celle que je projette, qu'on tombe dans le RATP bashing. C'est-à-dire, que je sache, mesdames et messieurs les sénateurs, s'il n'y avait que la RATP qui avait des difficultés à recruter, je parle sur tous vos territoires et dans tous les secteurs professionnels, ça se saurait.
Voilà, Jean Castex devant le Sénat hier. La mobilisation demain s'annonce très suivie à la RATP. Et puis, Luca De Meo était dans Good Morning Business ce matin sur BFM Business. Le patron de Renault en pleine réorganisation est revenu sur cette norme Euro 7, norme décidée par la Commission européenne qui devrait être moins importante que prévu, mais néanmoins que craignent les constructeurs automobiles car elle risque d'augmenter fortement le prix des voitures thermiques. On écoute Luca De Meo.
Je pense que les voitures elles vont devenir de plus en plus chères. Oui. Parce que entre toutes les normes, la technologie qui est demandée par le marché, qui est disponible et demandée par le marché, et toute l'histoire de l'électrique, je pense que l'alignement entre les deux va se faire par l'euro. C'est pour ça que on ne mise pas sur une explosion du marché européen en volume. Parce que les voitures elles vont devenir plus chères. Tu as thème de sécurité, on ajoute, tu as thème d'émission, tu ajoutes, tu as les gens veulent des voitures connectées, des voitures qui parlent, qui apprennent, etc. Ça coûte de l'argent.
L'économie chinoise continue d'inquiéter. Dernière statistique en date, les prix à la production qui reculent en octobre. C'est la première fois depuis 2020. L'assureur Crédit Alliance Trade estime que l'économie chinoise ne va croître que de 2,9% cette année, de 4,5% l'année prochaine. En cause notamment la politique zéro Covid. À Pékin, on retrouve le correspondant de BFM Business, Sébastien Lebelzik.
Oui, première difficulté, le ralentissement économique mondial qui induit forcément une demande plus faible pour les biens en provenance de Chine. La seconde difficulté, c'est la politique zéro Covid appliquée ici avec une grande fermeté depuis bientôt 3 ans et qui perturbe fortement l'activité, à la fois la production et les ventes. On voit que le confinement par exemple de l'usine de Zhangzhou qui fabrique des iPhones pourrait entraîner une baisse de 30% de la production de ces téléphones ce mois-ci. Les analystes estiment que tant que ces deux facteurs ne seront pas résorbés, et on parle d'un horizon à 6 mois au mieux, eh bien il n'y aura pas d'amélioration. Les exportations, et on l'a appris ce matin, les prix à la production reculent même pour la première fois depuis 2020 en Chine, et cette note d'Alliance table même sur un ralentissement de la croissance en valeur des exportations chinoises qui pourrait même baisser de 2,8% l'an prochain. Autre facteur d'inquiétude pour la Chine, le nombre de défaillances d'entreprises qui devrait croître selon cette note encore de 15% en Chine en 2023. Il y a actuellement 4 fois plus de faillites d'entreprises chinoises qu'il y a 10 ans.
Merci Sébastien. Le Belzic correspondant à Pékin. Et puis le groupe LVMH va pouvoir implanter son nouveau centre de recherche et de développement sur le plateau de Saclay en banlieue parisienne. Il sera installé dans les anciens terrains de l'école polytechnique. Le conseil d'administration de l'établissement a finalement donné son accord. Un sujet de Stéphane Pedrazzi.
Un centre de recherche dédié au luxe durable et digital, le projet avait été annoncé l'an dernier. Il a finalement trouvé son écrin, ce sera à proximité de l'école polytechnique, située à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Un projet XXL, 22 500 mètres carrés, pour un budget compris entre 100 et 150 millions d'euros. Ce sera le premier centre de recherche transversal dédié à toutes les maisons du groupe LVMH, mais avec un thème central, celui de l'environnement. Le groupe prévoit notamment des travaux sur le numérique, l'énergie et la recherche de nouveaux matériaux. Lancement prévu à l'horizon 2026, le projet a été confié au cabinet Sana, celui qui avait assuré la rénovation de la Samaritaine. Au total, 300 chercheurs seront basés dans ce nouveau centre de R&D et un partenariat est d'ores et déjà prévu avec ses prestigieux voisins. LVMH va investir 2 millions d'euros par an pendant 5 ans sur des projets de recherche communs avec l'école polytechnique.
Allez, c'est l'heure de notre focus et nous revenons évidemment sur les midterms. Cette nuit aux États-Unis, les Américains qui votaient pour renouveler notamment leur Chambre des représentants dans sa totalité et un tiers du Sénat. Antoine Allard, vous êtes à Washington en direct pour BFM Business. Antoine, c'est habituellement un vote sanction pour le gouvernement en place, ces élections de mi-mandat. Et pourtant, cette vague rouge, cette vague républicaine attendue n'a pas déferlé tant que ça sur l'Amérique.
Non, pas de vague rouge, effectivement, hier, à peine une vaguelette. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les démocrates, à la surprise générale, ont bien résisté. Ils ont fait bien mieux que prévu. Alors, à ce stade du dépouillement, à la Chambre des représentants, les républicains sont certes devant, mais avec seulement 20 sièges d'avance. C'est une avance qui pourrait leur permettre de remporter la Chambre, mais avec une majorité quand même extrêmement faible. On est loin, très loin, du tsunami promis par Donald Trump il y a quelques jours encore. En fait, Joe Biden pourrait même faire le meilleur score à la Chambre depuis plus de 20 ans. Ce serait historique si ça se réalise. Et puis, quand on regarde du côté du Sénat, là, la course est extrêmement serrée. C'est 48 sièges partout. La majorité est à 51. Donc, ça va se jouer vraiment à quelques sièges près. Impossible de dire de quel côté ça va basculer. Ça va se jouer dans quelques États qui restent encore à dépouiller. La Géorgie, l'Arizona, le Nevada, notamment. Des bons résultats donc pour les démocrates, alors même que Joe Biden est très bas dans les sondages, que les Américains, dans leur majorité, sont mécontents de sa politique, en particulier sur l'économie et sur l'inflation. Mais de toute évidence, les républicains, hier, n'ont pas réussi à capitaliser sur ce mécontentement pour s'imposer nettement dans les urnes.
Ah bah justement, Antoine Allard, comment expliquer les bons résultats des démocrates s'ils sont si bas dans les sondages ?
Alors, à ce stade, on peut faire que des hypothèses. Moi, hier soir, il se trouve que j'ai passé la soirée électorale avec des militants démocrates. J'ai pas mal échangé avec eux. Il y en a un qui m'a dit qu'il avait senti que sur le terrain, la campagne qu'il avait menée avait fonctionné, qu'il y avait du répondant quand il faisait du porte-à-porte, en particulier lorsqu'il évoquait la question du droit à l'avortement. Et il m'a dit « Je suis convaincu qu'on a gagné ou qu'on va gagner le vote des mères de famille de banlieue. » C'est un vote crucial aux États-Unis. C'est un peu le vote que tous les partis cherchent à obtenir parce que c'est un vote qui est susceptible de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et ces mères de famille de banlieue, elles sont très sensibles à la question du droit à l'avortement. Il m'a même dit qu'il avait rencontré des mères de famille qui ont l'habitude de voter pour les Républicains et qui cette fois-ci étaient prêts à basculer côté démocrate. Donc c'est peut-être cet électorat-là que les démocrates ont gagné et qui ont fait basculer l'élection. Ce qui est surprenant en tout cas, c'est que hier, les sondages qui ont été réalisés auprès des électeurs lorsqu'ils sortent des bureaux de vote, quand on leur demande pourquoi vous avez voté, quels étaient les thèmes importants pour vous, il y avait toujours en un l'inflation, mais l'avortement, le droit à l'avortement arrivait tout de suite derrière, seulement 2 points derrière. C'était beaucoup plus haut que ce qui avait été mesuré jusqu'à présent.
On va toujours se méfier des mères de famille de banlieue, Antoine. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est le grand perdant de cette soirée?
Alors, il est peut-être encore trop tôt pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que Donald Trump a passé une très très mauvaise soirée hier. Beaucoup des candidats qu'il soutenait ont perdu ou sont en difficulté. Par exemple, c'est son poulain qui a perdu en Pennsylvanie le siège de sénateur à un État qui est clé. Trump espérait apparaître aujourd'hui comme le faiseur de roi. Il apparaît plutôt désormais comme une sorte de boulet pour son parti, ou en tout cas pour les candidats qu'il soutenait. Et ça, c'est très mauvais pour lui parce que dans une semaine, il a prévu de faire une grande annonce, c'est-à-dire eh bien, déclarer officiellement qu'il se lance dans la course à la Maison-Blanche pour 2024. A l'inverse, le grand gagnant hier, c'est Ron DeSantis. Retenez bien son nom, c'est le gouverneur de Floride, c'est l'homme qui monte en ce moment au sein du Parti républicain. Lui aussi veut se lancer dans la course à la Maison-Blanche. C'est donc un concurrent sérieux pour Donald Trump dans la primaire qui doit départager les candidats républicains dans cette course à la Maison-Blanche. Hier, dans son allocution, Ron DeSantis d'ailleurs a fait allusion à ses ambitions présidentielles. Il a dit « Le combat ne fait que commencer ». Alors Trump, manifestement, a senti le danger, parce que lui aussi s'est senti obligé de faire une intervention à la télévision. Et il a parlé quelques minutes seulement, c'était extrêmement brouillon, il s'est emmêlé les pinceaux dans les chiffres. En réalité, c'était complètement incompréhensible, et ça n'a fait que renforcer l'impression que l'ancien président était vraiment en train de prendre l'eau.
Une alternative peut-être dans le camp des Républicains. Merci beaucoup Antoine Allard pour cette dernière précision en direct de Washington pour 60 minutes. Business. Allez, tout de suite, on fait un point Euronext. Avec vous, Antoine Larigaudry, une fois n'est pas coutume, on va se pencher pour commencer sur les cryptos. Ça va très mal ce mercredi. On signe même de nouveaux plus bas annuels, Antoine.
Oui, c'est sans doute une phase 2 de ce fameux hiver crypto dont on parle depuis juillet dernier, à savoir qu'on a à nouveau un maillon de la chaîne crypto qui est en train de complètement flancher. Il s'agit d'FTX, la plateforme d'échange géante de Sam Bankman-Fried, qui a été reprise in extremis vraiment par son principal concurrent, Binance, pour une bouchée de pain, parce que globalement, le groupe était confronté à une crise de liquidité face à l'effondrement de son token, de son jeton, dont la valeur a perdu plus de 30% en quelques jours. Et du coup, le groupe était véritablement menacé par une crise de liquidité. Si vous voulez une image, c'est un peu comme si la crise qu'a frappé la banque Dexia était en train de toucher un établissement crypto-monnaie, le tout véritablement en quelques heures. Et ça a été extrêmement violent et ça a entraîné par le fond l'ensemble des cryptos. Et ça continue d'ailleurs avec un Bitcoin qui est maintenant sur des nouveaux plus bas annuels. On est en ce moment du côté des 17 000 dollars, pas plus. On est sous les 1 200 dollars pour l'Ether et du côté du Ripple, du XRP, là on a une correction encore plus violente. On a touché les 50 cents, hein, c'était la semaine dernière, et là on redescend du côté des 36. Donc il y a vraiment de très très fortes corrections sur l'ensemble des classes d'actifs crypto en ce moment.
Bon, pour ce qui est des marchés actions, Antoine, c'est bien plus calme.
Oui, c'est beaucoup plus calme. C'est vrai qu'on est dans l'incertitude un petit peu hein, concernant le résultat de ces midterms et les conséquences que ça pourrait avoir sur le marché. Le marché qui était paré à parier sur un statu quo, hein, globalement au niveau législatif, au niveau budgétaire, peut-être quelques améliorations. Mais en tout cas, ça n'a pas d'effet sur les futurs américains. Pour l'instant, le CAC 40 est en repli de seulement 0,2%. Vous voyez, on ne bouge vraiment pas et on est toujours autour des 6400. Moins 0,3 pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort, moins 0,5. Meilleure performance du CAC 40, c'est Carrefour, hein, plus 1,3% à 16,50 €. On a aussi de bonnes performances de la part de Téléperformance, plus 1,2 à 267,10 ou Danone, plus 1,15 à 49,85. La plus forte baisse de l'indice, en revanche, c'est Renault, encore des prises de profit. Après l'annonce de la réorganisation du groupe, le titre avait bien progressé. Là, il fait l'objet de prises de bénéfices. On est à 29,79 en baisse de 2,7%. Quant à l'euro, on est toujours au niveau de la parité 1,0060. Le CAC, donc, moins 0,19.
Merci beaucoup, Antoine Larigauderie, pour ce point de la mi-journée. Dans un instant, une fois n'est pas coutume, on va parler de sport et de golf particulièrement avec ce Live Invitational Series. C'est cette ligue qui fait de longue au circuit traditionnel PGA et européen. On va en parler de ces enjeux de cette nouvelle ligue avec l'économiste Pierre Rondeau qui sera sur ce plateau dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Allez, on est en train d'en parler avec Pierre Rondeau de cette nouvelle ligue de golf. Bonjour Pierre Rondeau, économiste du sport. On parle effectivement de cette ligue de golf qui fait tant de vagues sur les greens. La Live Invitational Series, lancée en juin, initiative de l'ancien champion Greg Norman, ancienne star du golf à la base, et d'un fonds d'investissement d'Arabie Saoudite, Pierre.
Le PIF. Le fonds d'investissement, le fonds souverain saoudien, qui est doté à hauteur de 620 milliards de dollars, donc oui. Ils ont des moyens assez conséquents et assez limités, et nouveau circuit de golf qui vient directement concurrencer le circuit européen et le circuit américain, ce qui d'ailleurs les dérange assez, puisque la dotation financière de cette compétition est 10 à 15 fois plus importante que les tournois américains et européens. Le titre de comparaison, le prize money, en tout cas la dotation financière accordée aux vainqueurs du British Open ou de l'US Open, c'est entre 2,5 et 3 millions de dollars. Là, pour un tournoi de cette compétition saoudienne, en tout cas financée par l'Arabie Saoudite, on est sur 4 millions de dollars à minima. À minima, un prize money qui pourrait atteindre les 25, voire les 50 millions de dollars au total avec tous les participants. Avant même de participer, les grandes stars ou les anciennes stars de golf qui iraient donc dans cette compétition, qui sont allées dans cette compétition, ont déjà obtenu un chèque de plus de 10 millions de dollars. Donc on est vraiment sur l'attraction monétaire, financière. Et ça dérange assez énormément les organisateurs européens et américains.
Donc lancée en juin, là elle se termine, le premier circuit. Il y a 8 tournois en Angleterre, 4 aux États-Unis, 1 en Thaïlande, 1 en Arabie Saoudite. Vous l'avez dit, doté de 25 millions de dollars chacun. Hein, c'est plus du double, c'est même au-delà. Mais ce qui est embêtant en revanche, c'est que certaines épreuves, le calendrier de cette ligue, croise celle des autres circuits.
Dans l'organisation sportive, et là on parle spécifiquement du golf, mais on pourrait faire le parallèle avec la Super Ligue européenne de football.
On en parlera.
C'est qu'on organise le calendrier, ou en tout cas la saison sportive, sur les compétitions existantes. Donc on a le tournoi américain, le tournoi européen, et il y a une entente tacite entre les deux pour ne pas se marcher dessus, et pouvoir conjointement faire les circuits européens, les circuits américains. Si un troisième acteur arrive en disant « je m'impose et je mets l'argent sur la table », le calendrier n'étant pas extensible, forcément les dates fixées seront au moment où on aurait des compétitions européennes et américaines. Donc, mécaniquement, ça provoque un affrontement, une collision entre les trois acteurs. Le nouvel acteur arrivant avec bien plus d'argent, mécaniquement, les sportifs vont préférer aller vers le saoudien plutôt que de l'européen ou de l'américain.
Quel est l'intérêt pour l'Arabie Saoudite, au-delà de l'aspect financier, de créer ce genre de ligue sur les sports déjà existants ?
On peut même se poser la question de l'intérêt financier, s'il existe. Oui. Est-ce que quand on met autant d'argent sur la table, est-ce qu'on y va pour un intérêt spéculatif, lucratif, de rentabilité économique, où là, clairement, évidemment, pour les pays du Golfe, on parle de soft power, on parle de retombées médiatiques et réputationnelles, on n'est pas là pour gagner de l'argent. L'Arabie Saoudite qui dépense autant d'argent pour du Golfe, ou même avant, pour le Paris-Dakar, pour la Supercoupe d'Espagne ou d'Italie, pour le Grand Prix de F1, c'est surtout et avant tout pour exister d'un point de vue diplomatique, tout comme l'a fait avant eux le Qatar et le Paris Saint-Germain, ou la Coupe du Monde de football qu'on a dans quelques jours, tout comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis avec avec le club de Manchester City, ouais. c'est parier sur le sport dans un but réputationnel et géopolitique. Et là, effectivement, alors à voir si ça va fonctionner vis-à-vis des Européens et des Américains qui ont l'air d'être très énervés, en tout cas les organisateurs de cette compétition, mais l'Arabie Saoudite, clairement, le fait à des fins réputationnelles et géopolitiques, et en aucun cas des éléments ou des considérations économiques, dépenser autant d'argent dans du golf, c'est pas pour récupérer derrière des droits TV ou c'est pas pour récupérer derrière des retombées touristiques. Mmh. C'est surtout et avant tout pour se considérer comme le futur plus grand tournoi de golf du monde.
Oui, une question effectivement réputationnelle. Le problème, c'est que des stars ont rejoint ce circuit. Phil Mickelson en juin, Sergio Garcia, Ian Poulter, Lee Westwood. Bon, c'est des grands noms, c'est des anciens noms du golf. Hein, pour le moment, il n'y a pas réellement de stars actuelles chez ceux qu'on appelle les dissidents. Tiger Woods, par exemple, n'a pas du tout signé. Mais les joueurs qui y participent ont été suspendus du circuit américain.
Il y a eu suspension circuit américain et amende. Alors vous me direz un monde de 110 000 euros pour le circuit européen, ce qui est peu par rapport à ce qu'ils peuvent potentiellement gagner. Mais c'est en droit et d'un point de vue juridique, se pose la question de la liberté à ce que les sportifs puissent aller où ils veulent dans n'importe quelle compétition. Et justement, on en parlait de la question juridique au sujet de la Super Ligue européenne de football, oui. où la Cour de justice de l'Union européenne doit encore statuer en décembre prochain pour cette liberté ou pas à ce que les acteurs sportifs aient le droit de concourir à différentes compétitions. Aujourd'hui, ce que font les Américains, c'est qu'ils s'imposent une forme de monopole. C'est qu'ils disent que soit vous participez à notre tournoi, à notre championnat, soit vous partez et il y a une expulsion de fait. Pour l'instant, en Europe, c'est pas le cas parce qu'il y a une forme de jurisprudence. Alors, la jurisprudence est assez faible parce qu'elle s'applique sur le tournoi de patinage de vitesse. Il y a une jurisprudence en patinage de vitesse qui a accordé, en tout cas une décision, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé à ce que les sportifs aient le droit de pouvoir concourir à différentes compétitions. Mmh. La plus importante, elle arrive prochainement, le 15 décembre prochain, c'est la décision sur le football et globalement sur le monopole ou pas accordé aux organisations sportives. Donc, pour l'Europe, il n'y a pas d'expulsion parce que pour l'instant, il y a une tractation juridique en cours. Les Américains, ils ont statué, c'est soit vous jouez chez nous, oui. soit c'est expulsion.
Mais d'ailleurs, sur le circuit américain, certains joueurs actuels du circuit ont mis en cause les droits télé ou les droits d'image, plutôt pour les sportifs, qui sont entièrement gérés par cette ligue. Ce monopole, comme vous le dites, ça pourrait peut-être faire changer un petit peu les règles.
Alors, c'est toute la question. Encore une fois, c'est une question juridique. J'imagine un combat de juristes sur savoir s'ils ont le droit ou pas de pouvoir accorder une crédibilité à ce championnat. Je rappelle néanmoins un élément juridique pour le côté américain. En 1922, la Cour suprême a statué sur le droit à ne pas respecter les règles de la concurrence pour un marché qui participait au bien commun et au bien social. Et à partir de là, tous les sports nord-américains, que ce soit le basketball avec la NBA, la NFL avec le foot US, la NHL avec le hockey sur glace, et donc le golf avec le tournoi américain, tous ces tournois, toutes ces compétitions n'ont pas à respecter les règles de la concurrence. Donc peuvent s'imposer une spécificité et ont le droit, de fait, décision de la Cour suprême de 1922, d'expulser des joueurs ou des sportifs qui auraient concouru dans d'autres compétitions ou d'autres championnats. Alors, ça pourrait changer, et on pourrait remettre en cause cette décision de la Cour suprême qui date de 1922, donc on peut la mettre à jour, mais en tout cas, à l'heure actuelle, les Américains ont le droit d'imposer un choix aux sportifs, de dire soit les millions et les billets verts avec l'Arabie Saoudite, soit vous restez chez nous, les Américains, mais vous avez le prestige de la compétition américaine.
Pour terminer, vous en avez parlé de cette ligue, de cette Super Ligue en football. Bon, là, l'UEFA et plusieurs représentants des clubs, des ligues, des joueurs européens ont opposé cette semaine un nouveau refus à cette Super Ligue. Mais quoi qu'il arrive sur ces Super Ligues qui sont un peu menées par l'argent, le moteur n'est aucunement sportif.
Oui, alors ça, les promoteurs vous diraient que l'intérêt est aussi sportif pour récompenser les plus méritants, puisqu'on se fera de l'argent pour le redistribuer aux participants.
Ça ne porte pas les mêmes valeurs du sport, disons.
À se poser la question, effectivement, si on prend le modèle européen, l'histoire et la culture européenne, on est sur un principe méritocratique de ligue ouverte. Appliquer ça en Europe avec notre mentalité, notre état d'esprit, ça pose question. Mais le discours, l'argent avant tout, le sport avant tout, eux vous disent, je les cite, c'est pas que je le défends, mais je les cite, c'est que l'argent récupéré sera directement reversé aux sportifs. Donc il y a aussi un intérêt sportif parce qu'on récompense les plus méritants, la méritocratie étant respectée, les sportifs vont très bien gagner leur vie parce que c'est eux qui vont générer le plus d'argent. Mais effectivement, la question se pose d'un point de vue culturel.
Merci beaucoup Pierre Rondeau d'être venu nous voir, économiste du sport, pour parler de cette nouvelle ligue de golf dont le circuit va s'arrêter dans les prochains jours. Tout de suite, on accueille Frédéric Bianchi.
BFM Business 60 minutes business, le top 3 du web.
Ah là là, Frédéric, vous le voyez aujourd'hui, Jean-Marc nous manque beaucoup, mais il sera de retour demain, ne vous inquiétez pas. C'est son moment préféré, effectivement. Bon, on va commencer ce top 3 du web par cette grève. Demain, avec l'état des transports en Ile-de-France qui préoccupe beaucoup les lecteurs aujourd'hui.
Oui, c'est l'article de loin le plus consulté du site. Ça va être un jeudi noir, on va avoir du mal à aller travailler, nous particulièrement ici dans le groupe. Alors on rappelle, ce sont 7 lignes de métro pour les alors c'est une information très francilienne mais à Paris donc cette ligne de métro totalement fermée, la 2, la 3 bis, la 5, la 10, la 11, la 12, je fais la météo hein. Sept autres seront partiellement fermées, seulement ouvertes aux heures de pointe. Il y aura un RER sur 3. Alors la RATP invite évidemment tous les voyageurs à télétravailler s'ils le peuvent. On rappelle que cette grève, les syndicats réclament des augmentations de salaire. La RATP assure de son côté avoir augmenté tout le monde de plus de 5%, 5,2% précisément en 2022.
Pour le deuxième article, Frédéric, c'est une entreprise italienne de meubles bien connue pour ses publicités qui est épinglée. Mais,
poltrone sofa, je vais essayer de le dire avec l'accent artigiani de la qualità. On a tous entendu ce slogan à la télé, à la radio. Eh bien, on ne l'entendra probablement plus. La DGCCRF a fait les gros yeux, a tapé sur les doigts de la compagnie italienne et lui réclame une amende de 800 000 euros pour pratique commerciale trompeuse, en cause justement ce slogan, ou plutôt ce qu'on voit dans les réclames, c'est-à-dire des artisans qui sont en train de fabriquer nos canapés, alors que ça ne se passe pas comme ça au sein de la société. Ce sont des grosses usines qui fabriquent nos canapés. Donc ce terme d'artisan choque aussi, en tout cas agace aussi en Italie, où un projet de loi a été présenté en 2019 pour interdire des sociétés comme ça d'utiliser à tort ce genre de terme.
Il n'y a pas toutes ces petites mains qui mettent la mousse, ça n'existe pas. Et enfin, pour le dernier article, Frédéric, on part en Chine où les milliardaires ont perdu avec l'épidémie de Covid, aussi.
Exactement, la politique zéro Covid qui n'en finit pas, la croissance molle, la crise immobilière, la Chine étant pétrée depuis 3 ans, et comme un symbole, elle a perdu un certain nombre de milliardaires, 11% de moins selon le classement du cabinet Hurun, cabinet chinois. Il y avait 1305 personnes qui avaient une fortune estimée à plus de 5 milliards de yuan, c'est 11% en moins qu'il y a un an. À eux tous, ils cumulaient 3500 milliards de dollars en 2021, c'est 18% de moins, là aussi, un an. Alors, il y a beaucoup de grands perdants, évidemment, dans les secteurs de l'immobilier, dans la tech aussi. Ponyma, le fondateur de Tencent, a perdu 15 milliards en un an. Zhang Yimin, le fondateur de ByteDance aussi, TikTok, bien connu, c'est 28% de son patrimoine qui se sont envolés. Donc voilà, la Chine est dans une mauvaise passe et les milliardaires commencent à trinquer.
Merci beaucoup Frédéric Bianchi. Restez avec nous dans un instant, la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est le plan de Carrefour à horizon 2026. Alexandre Bompard est venu expliquer la stratégie du distributeur ce matin sur le plateau de Good Morning Business. Face à la flambée des prix, le groupe veut accélérer sur les marques distributeurs qui devraient représenter 40% de ses ventes, mais aussi sur le discount en important un modèle développé au Brésil. On écoute le patron de Carrefour.
En septembre prochain, on va lancer, on va tester notre format brésilien cœur, qui s'appelle Atacadão, qui est un format prix très bas, assortiment cette fois-ci très court, extraordinairement efficace, extraordinairement proche de ceux qui souffrent le plus. En effet, ça repose sur des achats d'opportunités, des gros conditionnements, des assortiments très, très, très courts. C'est très efficace. On va le tester en septembre. On ne sait pas encore comment le marché français va répondre.
Quel endroit vous allez être en Ile-de-France ?
En Ile-de-France, mais il faut encore qu'on affine et qu'on discute avec nos partenaires sociaux, parce que c'est un hypermarché qui va se transformer en Atacadão.
Iberdrola accélère dans les renouvelables. Le groupe espagnol va investir 47 milliards d'euros d'ici 2025. Plus de la moitié de cette somme sera consacrée au réseau d'électricité. Le reste ira au développement des renouvelables, notamment l'éolien offshore. Met.com est racheté par le britannique Next. Le groupe d'habillement acquiert la marque, les noms de domaine et la propriété intellectuelle du site de meubles en faillite. 400 licenciements sont annoncés. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. En Allemagne, le procès de Wirecard s'ouvrira le 8 décembre. La fintech est au cœur d'un scandale financier qui a éclaté en 2020 lorsque ses dirigeants ont avoué que près de 2 milliards d'euros d'actifs, soit un quart du bilan, n'existaient pas en réalité, provoquant la faillite de l'entreprise cotée à l'époque au DAX. L'ancien PDG Marcus Braun et deux anciens cadres sont accusés de fraude en bande organisée. Meta coupe drastiquement dans ses effectifs et annonce 11 000 suppressions
fonds d'emploi, soit 13% des employés. C'est la première vague de licenciement de l'entreprise depuis sa création. La maison mère de Facebook a annoncé fin octobre un bénéfice en chute de 52% sur un an au troisième trimestre, plombé par la construction de son métaverse. En un an, Meta a perdu près de 600 milliards de capitalisation boursière. Et puis les Américains votent pour les élections de mi-mandat et la vague républicaine ne semble pas se confirmer. Les démocrates sont pour l'instant en passe de remporter la majorité au Sénat grâce à la victoire de John Fetterman en Pennsylvanie. À la Chambre des représentants, les républicains devraient l'emporter d'une courte majorité selon les premières estimations. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC évolue toujours dans le rouge, moins 0,2%, 6429 points Sandra.
Merci Stéphanie. Votre prochain journal à 15h.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission avec Thomas Schnell qui m'a rejoint et on va parler aujourd'hui, Thomas, d'actifs numériques.
Oui, bonjour Sandra, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille avec nous Anne Maréchal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé chez De Gaulle Fleurance. Avec vous, on va voir le milieu des actifs numériques qui prend, on le sait, sur BFM Business de plus en plus de place. Mais aujourd'hui, il faut jouer en respectant les règles puisque c'est fini l'époque où on pouvait tout se permettre. On va commencer d'abord par une activité qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans un grand nombre d'entreprises qui se lancent pour devenir des plateformes de vente de crypto-monnaies. On parle là des bitcoins, Ethereum et autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut jouer les intermédiaires avec les particuliers? Qu'est-ce qu'il faut respecter comme règles?
Alors les acteurs de la finance, de la banque et les nouveaux acteurs, enfin les acteurs de ce nouveau monde de la blockchain s'intéressent tous aux crypto-monnaies et c'est un marché qui est fluctuant certes, mais dont la valeur est estimée à plus de 1000 milliards de dollars et donc il y a des opportunités sur ce marché à saisir. Et il faut savoir que cette activité, donc la création d'une plateforme de négociation d'actifs numériques et d'achat-vente, est aujourd'hui réglementée. Si vous voulez créer une telle plateforme et proposer ces services, vous devez donc demander à l'autorité des marchés financiers un enregistrement. Cet enregistrement vous conférera le statut de prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN, et l'AMF va vérifier pour vous l'accorder que la plateforme va être capable de respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pour l'essentiel.
Parce que c'est ça la grande spécificité, c'est qu'on parle d'enregistrement seulement auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, et non pas d'agrément.
Alors, il y a une différence, vous avez raison, avec l'agrément. C'est une spécificité de la réglementation française, son originalité. Sachez que la France a été très en avance, est très en avance pour la réglementation des actifs numériques et elle a créé une réglementation qui prévoit la possibilité pour ces acteurs qui veulent créer une plateforme de ce type de demander un agrément. Donc au-delà de l'enregistrement, cet agrément apporte des garanties importantes en termes de fonctionnement de la plateforme et de garanties pour les investisseurs. C'est un agrément qui est délivré par l'AMF sur une base volontaire. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas obligés de l'obtenir. Mais s'ils vont le demander, et les acteurs sérieux aujourd'hui le demandent, les premiers agréments sont en passe d'être délivrés par l'AMF, ils vont permettre à ces acteurs de bénéficier d'un capital de confiance. Parce que cet agrément volontaire, c'est en quelque sorte un label de qualité. Mm-hmm. Et donc ça va donner confiance aux acteurs, aux clients, et donner un bénéfice important à ces acteurs qui pourront notamment procéder à du démarchage, qui autrement est interdit.
Vous dites que la France est en avance sur ce domaine. En revanche, on a l'impression que les banques, en France particulièrement, elles freinent encore des quatre fers. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'elles s'y mettent?
Alors, je crois que les banques ont bien évolué. Les banques ont compris que la blockchain était essentielle, oui, pour leur avenir. Et effectivement, elles étaient très prudentes. Elles craignaient notamment les pratiques de blanchiment. Et elles ont aujourd'hui, je crois, beaucoup évolué. Elles acceptent plus volontiers d'ouvrir des comptes à ces sociétés qui souhaitent travailler dans ce domaine. Et encore une fois, comme elles sont désireuses de développer des projets sur la blockchain, je crois qu'elles sont vraiment en train d'évoluer.
Alors, on va parler d'un mot un peu technique, on va rester très clair pour nos auditeurs et on va vulgariser le plus possible, la tokenisation des actions, des obligations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond et à quel point est-ce qu'aujourd'hui ça peut prendre de la place dans les échanges financiers?
Alors, on parle de security token, là, c'est-à-dire d'instruments financiers. On ne parle plus d'utility token, d'instruments financiers, c'est-à-dire pour l'essentiel des actions ou des obligations. Et là, l'enjeu est majeur, notamment pour les banques, de pouvoir tokeniser ces titres financiers pour pouvoir les inscrire, voire les négocier sur la blockchain. Pourquoi ? Parce que ça présente des avantages absolument considérables en termes de coûts des transactions qui sont bien moindres sur la blockchain, de fiabilité, de liquidité. Donc c'est une évolution qui n'est pas un effet de mode, on y va. Et tous les secteurs s'y intéressent. Au-delà de la finance, on peut par exemple tokeniser de l'immobilier, c'est-à-dire loger un immeuble dans une société dont on va inscrire les actions sur la blockchain, et ça permettra aussi d'avoir par exemple plus de liquidité. Et donc c'est une évolution importante. Le problème que l'on rencontre et qui est absolument majeur aujourd'hui, c'est que la réglementation financière qui est européenne pour l'essentiel, et notamment la directive MiFID 2, n'est pas compatible avec la blockchain. Elle n'a pas été pensée, si vous voulez, pour la blockchain. Par conséquent, les acteurs qui veulent développer, notamment toutes les grandes banques françaises et étrangères, veulent développer cette tokenisation des instruments financiers, se heurtent non pas à des obstacles techniques, puisqu'ils sont prêts, ces projets sont prêts, mais à des obstacles juridiques, puisqu'ils ne peuvent pas respecter cette réglementation sur la blockchain. Par exemple, sur la blockchain, on n'a pas d'intermédiaire. Or, la réglementation financière traditionnelle existe déjà des intermédiaires. Vous voyez, donc c'est pas compatible. Et donc on a une idée, c'est une initiative française là aussi, on a demandé à la Commission européenne d'imaginer une période d'expérimentation pour que les acteurs puissent développer leur projet malgré ces obstacles juridiques. Donc sans respecter les contraintes de la réglementation financière traditionnelle, les acteurs qui veulent développer ces projets, et encore une fois il y en a dans les cartons, sont grâce à ce règlement européen qui s'appelle le régime pilote, qui a créé un bac à sable, si vous voulez, une période d'expérimentation, ils peuvent aller demander à l'autorité des marchés financiers une autorisation pour développer leur projet en dérogeant à ces règles. Et vous voyez que c'est une innovation importante au niveau européen, on n'avait pas fait ça souvent, et j'attire vraiment l'attention notamment des grandes banques et des acteurs dans ce domaine. Il faut aller demander cette autorisation à l'AMF, c'est le régulateur national en France, c'est l'AMF, pour avoir cette autorisation et développer ces projets. Parce que sinon, vous ne pourrez tout simplement pas le faire. Et c'est possible dès maintenant, le règlement entre en vigueur en mars prochain, mais dès maintenant, l'AMF accepte de recevoir les acteurs et pour envisager cette autorisation.
Pour qu'on comprenne bien et qu'on soit bien sûr aussi de parler de la même chose, on parle des blockchains en tant que technologie, mais aussi en tant que parfois investissement. Et l'idée tokeniser, comme on dit, est-ce que c'est bien, dans l'immobilier par exemple, ou dans d'autres secteurs, est-ce que c'est bien de diviser, comme aujourd'hui on peut capitaliser une entreprise, on divise en actions aujourd'hui, là on va diviser en actifs numériques, on va pouvoir investir dedans, mais ça va fiabiliser le process. C'est là où vous parlez d'absence d'intermédiaire.
Absolument. Donc tout est inscrit dans la blockchain. On peut inscrire beaucoup de choses dans la blockchain grâce au smart contract. Et donc vous avez un actif numérique qui est très complet et qui va pouvoir vous donner toutes les caractéristiques de l'actif en question avec une fiabilité totale. Puisque on n'a pas de possibilité de frauder ou c'est fiable sur la blockchain, et puis un historique des caractéristiques de l'outil. Par exemple, dans l'automobile, on se dit qu'on va pouvoir fiabiliser le marché de l'occasion des voitures parce qu'on aura tout l'historique des achats et des ventes d'une voiture d'occasion.
Vous voyez, donc ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de carte grise, par exemple, que même nos papiers officiels, finalement, ils pourraient être authentifiés par cette technologie-là, finalement ?
Alors, on peut tout authentifier sur la blockchain. Après, il peut y avoir d'autres réglementations qui s'appliquent, bien entendu, notamment dans l'immobilier. On ne peut pas se passer aujourd'hui d'un notaire, mais on peut quand même tokeniser les actions d'une société qui détient un immeuble, comme je vous le disais.
On va se mettre du point de vue des entreprises. Les NFT se sont beaucoup développés. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'une entreprise peut faire ce qu'elle veut dans ce domaine, nous demande-t-on ?
Alors les NFT, ce sont des non-fungible tokens, c'est-à-dire des jetons non-fungibles, autrement dit un actif qui va être inscrit sur la blockchain et qui est unique, comme une œuvre d'art. C'est souvent d'ailleurs un dessin, un modèle, une œuvre d'art qui comporte... Alors le NFT donc, est inscrit sur la blockchain, il y a un certificat électronique d'authenticité et le propriétaire est le seul propriétaire, on lui garantit qu'il est le seul propriétaire de cet actif qui est unique. Donc vous voyez, ça présente beaucoup d'avantages, d'autant que sur la blockchain, on peut associer beaucoup d'informations, mettre beaucoup d'informations dans ce NFT. On peut mettre des images, de la vidéo, du code, enfin, donc voilà. Donc il y a beaucoup d'applications, ça s'est effectivement beaucoup développé, au-delà du domaine de l'art, comme je vous le disais. Il y a des projets dans des tas de domaines aujourd'hui.
La voiture d'occasion, vous disiez, par exemple, mais également les billets de train.
Les billets de train, on pourrait acheter, fiabiliser l'achat et la revente de billets de train.
Bon, là, on n'est plus dans l'investissement, du coup,
non.
On parle...
Mais il y a, me dit-on, des centaines d'applications de la blockchain par métier. C'est ce que disent les spécialistes.
On va parler un mot du métavers aussi,
oui.
Qui est une extension finalement de la blockchain. Est-ce que ça correspond aux mêmes technologies, aux mêmes domaines?
Le point commun, c'est l'actif numérique. Il n'y a pas forcément de la blockchain toujours dans le métavers, mais le point commun, c'est l'actif numérique. Notamment, on paye, on a un crypto actif sur la blockchain, et on a beaucoup. On peut, par exemple, acheter des terrains via des NFT sur le métavers. Donc, c'est ça le point commun. Le métavers, offre des potentialités absolument immenses et fascinantes. Hein. On peut avoir des loisirs, mais aussi l'accès à la culture, on peut visiter des musées virtuels, on peut travailler, on peut par exemple organiser des salons professionnels, ça se fait dans le métavers où vous pouvez rencontrer les personnes que vous souhaitez rencontrer via vos avatars, et puis on peut se former. On envisage la formation de chirurgien, par exemple, sur le métavers. Donc, ce n'est pas anecdotique pour moi. Le métavers, c'est un potentiel absolument immense. Les entreprises peuvent évidemment aussi y vendre leurs produits ou leurs services. Ouais. Et ça commence à se faire. Les entreprises fourmillent d'idées pour le métavers.
Il faut le protéger.
Et voilà, le message qu'on peut faire passer, nous, en tant que juristes, c'est qu'il est, à mon sens, faux de penser que parce qu'on est bien protégé dans le monde réel, par le droit tel qu'il existe aujourd'hui et la jurisprudence des tribunaux, on sera automatiquement protégé dans le métavers de facto, si vous voulez. Ça, je crois que c'est une idée fausse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques nouvelles dans le métavers. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Par exemple, comment vous allez vous assurer que vous respecterez les règles en matière de protection des données sur le métavers ? Comment vous allez assurer que votre identité ne va pas être usurpée ? Comment vous allez réagir si vous êtes squatté sur le métavers? Ça s'est arrivé. Il y a des locaux que vous avez achetés dans le métavers, ils sont squattés. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, des problématiques nouvelles. Et notre recommandation, c'est de penser les projets en amont, de sécuriser juridiquement ces projets en amont le plus possible pour profiter des opportunités sans les déconvenues.
Il faudra faire une autre émission sur ce sujet.
Il faudra continuer pour savoir la protection aujourd'hui. Est-ce que le droit est suffisamment compétent pour répondre aux nouvelles problématiques par le métavers?
Il est balbutiant. Dans ce domaine, il n'y a pas de réglementation spécifique au métavers aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne Maréchal, vous reviendrez nous voir sur ce plateau.
Avec plaisir.
On aura beaucoup de questions à vous poser dans un instant. BFM avec vous, recrute, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, recrute, et c'est Pascal Portelli, votre premier recruteur, Thomas.
Oui, bonjour Pascal Portelli.
Bonjour.
Directeur général chez Delta D'Or, la maison connectée. Aujourd'hui, vous êtes dans la domotique, mais du coup, vous représentez un catalogue assez important. Qu'est-ce que vous avez dans votre
entreprise ? Alors, tout à fait. Alors, Delta D'Or, c'est d'abord une vision, c'est que l'habitat connecté, ça va nous permettre de participer à la transition énergétique, tout en améliorant notre confort. Et c'est pas antinomique, on pense qu'on peut faire les deux. Et donc, on développe des solutions connectées pour vous permettre, vous et moi, chez vous, d'être plus éco-responsables, plus sûrs, plus confortables. Ça se traduit comment ? Les produits phares, les thermostats par exemple. Alors, c'est très d'actualité. On a tous vu la campagne gouvernementale « Je baisse, j'éteins, je décale ». Ce que vous voyez en première page, c'est un thermostat Delta D'Or. On est leader sur le marché, on en fait 1 million par an. C'est pas forcément très connu, mais on a construit ça au fil des années. Alors, c'est quoi les enjeux? D'abord, il y a les enjeux financiers. Un thermostat bien utilisé, vous allez économiser 15% sur votre note de chauffage. La note de chauffage, c'est le poste énergétique le plus important dans le foyer. Le premier, c'est le chauffage. Le deuxième, c'est l'eau chaude sanitaire, votre ballon d'eau chaude. Le troisième, ça va être la clim. Avec le réchauffement climatique, ça devient un poste important. Mm-hmm. 15% d'économie, c'est 200 euros par foyer. Il y a une trentaine de millions de foyers qui n'ont pas de thermostat aujourd'hui. En fait, on peut économiser 6 milliards.
6 milliards, à l'heure où on parle du pouvoir d'achat aujourd'hui des ménages, ce n'est pas négligeable. Vous parlez aussi de la domotique, donc c'est aussi une question d'actualité. Rester chez soi le plus tard possible aujourd'hui, c'est ce que souhaitent la plupart des Français.
Absolument, c'est très cohérent avec les politiques de télétravail, ce qui s'est passé depuis le Covid. Et on peut économiser de l'énergie et avoir du confort à la fois. Alors, comment ça peut se passer? On a tous cette notion, 19 degrés, on va avoir froid. En fait, comment est-ce qu'on économise de l'énergie chez soi? C'est en réglant à 16 degrés les pièces qu'on n'occupe pas. La chambre d'amis ou votre enfant étudiant qui n'est pas là pendant la semaine. Ou quand vous êtes au boulot, tout simplement. Ça ne sert à rien de maintenir 19 quand vous n'êtes pas là. Ce qu'on fait, c'est que ça baisse à 16. Et puis quand vous rentrez, c'est à 19. Pas 2 heures avant, où vous gaspillez l'énergie. Pas 1 heure après, vous aurez froid. Au moment précis où vous serez là.
Donc ça, c'est pour ce que vous faites. Mais vous êtes là pour recruter. Vous êtes 800 actuellement. Vous recrutez 80 personnes. Est-ce que vous pouvez nous donner les postes principaux dont vous avez besoin ?
Alors, on est une entreprise qui fait beaucoup d'innovation, donc on recrute en développement, on recrute des ingénieurs logiciels, iOS pour les applicatifs, logiciels embarqués, on recrute des chefs de produits pour concevoir et définir les produits, des designers, expérience utilisateur, c'est assez important dans l'utilisation de nos produits pour qu'ils soient simples d'usage. On est également fabricant, alors ça c'est assez rare dans l'électronique et le logiciel, on fabrique dans des usines en France qui sont en propre et en Allemagne, donc on a des postes de chef d'atelier ou de responsable de fabrication pour encadrer les équipes de production. On recrute aussi côté commercial, par exemple en région parisienne, on recrute un prescripteur, ce sont des commerciaux qui vont convaincre les promoteurs immobiliers, les constructeurs de maisons d'embarquer nos solutions dans du logement neuf.
Beaucoup de propositions pour tous nos candidats. Aujourd'hui, l'intérêt de rentrer dans votre groupe, c'est que vous êtes bien implanté. Vous avez également, j'imagine, des propositions à leur faire pour les vendre, pour les attirer à venir chez vous. C'est comment être salarié au sein de Delta D'Or ?
Delta D'Or, c'est déjà une entreprise familiale, actionnariat familial, basée siège social en Bretagne, dans une région super. On est à 15 minutes, on a deux bases, une à 15 minutes de Rennes, agglomération très attractive. Une autre qui est à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Dans une heure et demie, vous avez le départ de la route.
Il y a de beaux événements.
On a des collaborateurs, ils vont voir les bateaux passer de leurs fenêtres. Ils sont en télétravail aujourd'hui, certains. Voilà. Donc, très attractif. On a associé les salariés au capital. Il y a les deux tiers des salariés qui sont associés au capital. On a pas mal d'avantages, compte épargne-temps. Le télétravail est très pratiqué. On ne l'a pas inventé pendant le Covid, on en faisait déjà avant.
Comment on postule, Thomas ?
Alors, pour postuler chez Delta D'Or, on peut retrouver toutes les offres sur le site deltador.fr. Il faut aller tout en bas de la page, il faut scroller un petit peu. Il y a l'onglet « Nous rejoindre ». Les offres sont également sur LinkedIn. On peut également envoyer un mail de la part de BFM Business à recrutement@deltador.com. Tous ces liens, bien sûr, on vous les met sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business avec le replay de notre interview.
Et vous ne bougez pas, Pascal Portelli, vous restez avec nous. Votre deuxième recruteur, Thomas, est Martin Bollack.
Le PDG d'Esmos. Bonjour. Bonjour, Martin Bollack.
Enchanté.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Agence parisienne, experte en data. À quel point est-ce qu'aujourd'hui l'exploitation des données c'est devenu une arme au service des entreprises, un levier pour leur croissance ?
Aujourd'hui, la donnée, c'est le B.A.B.A., je pense, dans la transformation numérique des grands groupes et des leaders du CAC 40 à Paris. Et c'est dans ce contexte que Esmos grandit et a été créé, que j'ai créé il y a 3 ans. Donc c'est juste le pilier de la transformation des grands groupes et c'est sûr qu'on va investir demain.
On parle d'exploiter leurs données en interne, en externe, pour mieux réussir leur contrat, pour mieux réussir leur développement intérieur. À quel niveau vous agissez ?
Alors, il y a deux gros piliers chez Esmos d'intervention et deux modes d'intervention principaux. Ce qu'on appelle Data for Business et Data Platform. Data for Business, c'est acté à travers 4 expertises principales. Tout ce qui est data gouvernance et qualité de la donnée, qui est en fait le démarrage de la transformation data. Ensuite, toute la partie analytics et visualisation pour l'aide à la prise de décision. Tout ce qui est data marketing et web analytics. Et enfin, data agile pour mettre en place des programmes data à l'échelle.
35 recrutements prévus en 2023.
C'est ça, un peu plus finalement.
Ouais.
Du coup, sur ces deux postes-là, donc la partie data for business et la partie data platform, avec des profils de tout niveau de seniorité. Donc data for business, des collaborateurs du niveau de manager, de partner, aux collaborateurs un peu plus juniors sur ces technologies-là. Et côté data platform, des ingénieurs, cloud, data et architecture.
Pour conquérir de nouveaux marchés, pour faciliter les process en interne, donc consultant data product owner, consultant cloud talent acquisition spécialiste, ingénieur en affaires, pour rejoindre aujourd'hui, vous êtes installé à Paris, Esmos ?
C'est ça, à Neuilly, précisément, à Neuilly. Depuis quelques semaines.
Politique de télétravail ?
Politique de télétravail qui est mise en place en fonction des projets de nos clients et des besoins de nos clients aussi.
Qui sont vos clients d'ailleurs ?
Donc principalement des leaders du CAC 40 et des grands groupes à Paris. Donc les leaders dans le secteur du tertiaire financier, de la pharmaceutique, comme le groupe BPCE, Natixis, le groupe Servier, le groupe Crédit Agricole, mais aussi dans d'autres industries, comme Mano Mano, Bolloré, dans l'industrie de la logistique.
Pour postuler chez Esmos aujourd'hui, eh bien on peut aller sur votre site esmos.fr, l'onglet « Nous rejoindre ». Les LinkedIn aussi, votre page LinkedIn d'Esmos est à rejoindre. Esmos, pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est E-S-M-O-Z. On peut aussi envoyer un mail de la part de BFM Business à Camille Seligman, seligma2n@esmos.fr ou encore hello@esmos.fr. On vous met bien sûr tous ces liens-là en ligne sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business avec le replay de notre entretien avec Martin Bollack.
On va vous poser la question à tous les deux. Martin Bollack, une politique de RSE ?
Alors, c'est une politique qu'on est en train de mettre en place pour 2023 et 2024, avec pour ambition de se faire certifier auprès des plus grands, notamment EcoVadis, et rentrer dans ces process dans le cadre de nos partenaires.
On le sait, la RSE, ça peut attirer les candidats, ça compte en tout cas la responsabilité sociétale des entreprises, et à quel point est-ce que vous incluez les questionnements environnementaux à votre politique? Comment ça se passe chez Deltador?
Concrètement, on a beaucoup de candidats qui vont télécharger notre rapport RSE sur notre site, qui le lisent et qui nous posent des questions dessus.
À ce point-là?
Ah oui, c'est tout très net depuis 2-3 ans. Donc on se fait noter par EcoVadis, on est gold, c'est-à-dire qu'on est dans le top 1% des entreprises françaises sur la qualité d'un marché RSE, et c'est effectivement un vrai outil de recrutement, parce que c'est la mission de l'entreprise, hein, l'environnement, donc c'est cohérent de s'appliquer à nous-mêmes nos propres préceptes.
Depuis votre existence, effectivement, c'est pas seulement des certificats, c'est authentique, la volonté d'avoir un environnement, des conséquences moindres sur l'environnement.
La case est cochée, en tout cas, chez Deltador, et elle est en passe de l'être chez Esmos. Merci Pascal Portelli, merci Martin Bollack d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, en replay, toutes ces interviews également sur notre appli, sur notre site. On se retrouve demain. Jean-Marc Daniel sera là pour 60 minutes business dès midi et pour BFM avec vous à 12h30. Bonne journée.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.